Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers et je suis très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui un épisode sur le studio de jeu Fika Productions avec son cofondateur Antoine Grégoire Slight. Fika Productions est un studio de jeux vidéo basé dans la ville de Québec qui a comme objectif d'offrir un humble divertissement avec le plus grand soin. En novembre 2022, ils ont sorti Ship of Fools, un jeu innovant qui combine la coopération et le roguelike. En mai 2024, ils ont démarré une campagne de financement sur Kickstarter pour leur deuxième jeu, Don't Kill Them All, qui lui aussi est un caractère innovant, en combinant les concepts de stratégie, gestion de village et passivité. Donc là, vous allez sûrement commencer à comprendre pourquoi je voulais absolument les avoir à Accès Innovation. Antoine, bienvenue au podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci, Émile.
Ça me fait plaisir, comme je mentionnais tantôt. Donc là, pour commencer, je vais toujours commencer avec une question. Donc, votre premier jeu, Ship of Fools, puis là, ça se peut que dans l'enregistrement, je les mélange, je m'en excuse d'avance si c'est le cas. Mais le premier, c'est Ship of Fools. Il est sorti en novembre 2022, OK? Puis juste deux ans après, en 2024, en mai 2024, excusez-moi, un an et demi, même pas deux ans, un an et demi plus tard, vous faites votre annonce de financement Kickstarter pour le deuxième jeu qui, lui, est Don't Kill Them All, avec une belle annonce là, qui présente de l'art, de la musique, des mécaniques, du gameplay, puis une date anticipée de 2026. Donc là, moi, je me demandais immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé en 2022 et 2024 pour vous, donc entre les deux jeux? Est-ce que le studio entier commence à travailler sur le nouveau jeu à la sortie du premier, ou le développement du deuxième jeu était déjà commencé avant la sortie du premier? Je sais que vous êtes un petit studio, et juste pour nous aider un peu à nous mettre dans le mindset de comment ça fonctionne un studio, j'ai l'impression que c'est une bonne question pour commencer. Et je trouve que, puis juste avant de te laisser aller, je trouve que l'ensemble présenté sur Kickstarter est très impressionnant pour un jeu qui est quand même, qui va sortir d'à peu près deux ans. Je trouve qu'il y a beaucoup déjà de trucs, c'est de la musique, de l'art. Il semble d'être full avancé. Peut-être que c'est sûrement pas le cas, là. Fait que il semble être beaucoup avancé, justement. Fait que là, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça? Il est-tu vraiment avancé ou pas?
Oui, ben on est encore dans les débuts du développement là, de ce jeu-là. Kickstarter, par contre, c'est une plateforme sur laquelle il faut être attirant, il faut être attrayant. Donc, on a mis beaucoup d'accent sur le visuel du jeu, mais on a vraiment sélectionné qu'est-ce qu'on montre, de quelle façon. Fait que peut-être tout ce qui est hors caméra en ce moment n'est pas développé. Donc, on a vraiment comme sélectionné nos shots et tout pour montrer c'est quoi le projet qu'on est en train de bâtir puis communiquer cette vision-là. Le plus efficacement possible pour lever le financement. Ça reste qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail de développement pour se rendre au bout, d'où la sortie en 2026 du jeu.
Fait que là, ce qu'on voit, mettons, les petits bonhommes qui se promènent, c'est, mettons, c'est-tu que vous avez créé déjà ces scènes-là ou c'est des scènes artificielles qui sont pas vraiment codées dans les vraies mécaniques du jeu puis dans le vrai engine du jeu?
Ils sont quand même dans l'engine du jeu. Les animations, les rigs, tout a été bâti comme on bâtit un jeu. C'est juste que si, par exemple, le personnage n'a pas besoin de se tourner de face, ben on fera pas ces animations de face, des trucs comme ça. Fait qu'on va vraiment sélectionner exactement ce qu'on veut montrer, puis on déroge pas. Fait que c'était un peu plus comme si on montait un petit film que si on était en train de monter complètement un jeu vidéo qu'on a fait la campagne de ce sous-financement.
Ouais, c'est intéressant ça comme analogie par rapport aux films, parce que c'est vrai que les films, on peut facilement aller dans un studio de film et voir la truquerie. En fait, moi, j'ai vu, tu sais, on voit souvent ça des studios de films, on voit un peu le set, on voit les lumières en arrière, puis c'est facile de tourner la caméra et de voir que le set, il arrête là, puis il y a un mur en bois, puis que là, c'est plus vraiment dans le set. Mais un jeu vidéo, c'est peut-être juste ma mal compréhension, mais quand on s'imagine un jeu vidéo, puis l'infini de possibilités que ton personnage, il peut se déplacer à l'intérieur du jeu, peut-être qu'il y a un petit peu moins de truquerie, puis peut-être un petit peu plus une simulation, une vraie simulation bâtie autour de ça. Je ne sais pas comment tu trouves cette analogie-là. Là. C'est peut-être vraiment atroce, je m'excuse.
Non, c'est une bonne analogie. Puis je dirais que c'est un petit peu des deux. Il y a peut-être moins de tricherie qu'on voit dans le cinéma, mais il y en a quand même, tout dépendant comment on axe. C'est comme si on analyse un certain monde, t'es vivant, mais avec une lentille bien précise. Puis là, dans le cas de Ship of Fools, qui est notre premier jeu, bien, c'est un jeu en 2.5D. Donc, il y a certains éléments en 3D, certains en 2D. Puis, tous les dessins qui ont été faits ont dû être comme étirés verticalement en fonction de l'angle de la caméra pour qu'il y ait de l'air d'être dans les bonnes proportions, des trucs comme ça. Fait que, on en fait de la tricherie. Et il y a plein de choses que si ça apparaît jamais dans la caméra du jeu, ben clairement, on va pas les dessiner. Fait que, même si on a l'impression des fois qu'on a une île qui est énorme puis qu'elle va déborder, ben dès qu'on est hors du corps de la caméra, ça sert à rien qu'on dessine et qu'on ajoute les éléments graphiques qui sont là. Donc, on a l'impression que le monde est plus grand qu'il l'est en réalité Mais finalement, notre caméra fait juste filmer une petite scène et toutes les affaires qui sortent de là, ils disparaissent au fur et à mesure. Et on a plein de petites tricheries pour des effets de quand une créature rentre dans l'eau, comme on la voit un petit peu sous l'eau avec la transparence, des effets des effets visuels d'eau, des splashes là, qu'on voit partout, tout ça. Ben, y a plein de façons de tricher pour qu'il y ait de l'air un peu réaliste, mais des fois qui nous coûte aussi moins d'efforts de développement pour les réaliser. Là.
Ben oui, parce qu'on sait comment de l'eau. Ça, c'est, là, je sais que vos jeux sont en 2D, puis on pourra en parler un petit peu plus en profondeur ensuite, mais tu sais, dans des jeux 3D, je sais que faire de l'eau réaliste, ça peut être quand même difficile. Tu sais, oui. On s'entend, là, tu sais, c'est transparent, puis ça a des effets de mouvement assez particulier, c'est pas comme un solide. Là.
Non, c'est clairement, on s'est pas lancé dans l'eau réaliste. Là. Le fait que notre jeu est un peu dans un style visuel comics, cartoon, ben, ça nous aide justement à être plus stylisé que réaliste. C'est souvent un choix que les petites équipes de développement, nous chez FICO, on est 12. Avec une équipe de 12 personnes pour faire un jeu vidéo, ben, on va pas faire le prochain Call of Duty. C'est pas l'objectif, c'est pas le même marché, c'est des jeux ça, qui sont avec des centaines et des centaines de personnes et qu'ils travaillent et à chaque année sortent une nouvelle itération du même projet avec OK, on va changer les missions, mais on continue à bâtir sur un projet que ça fait des années et des années que la base de code augmente. Mais il faut faire des choix différents quand on est une petite équipe. On peut faire des jeux qui ont autant de jouabilité, qu'on peut rejouer aussi longtemps, qu'on peut avoir vraiment beaucoup de plaisir, mais on ne se lance pas dans les mêmes choses. Et nous, admettons, se lancer dans un jeu qui aurait été ultra réaliste, à 12 personnes, un peu difficile.
Ben oui, c'est ça. Vous êtes tellement pas nombreux. C'est ça qui est impressionnant. J'avais vu la photo de FICO Productions de l'équipe sur le site. J'étais un peu surpris, honnêtement, puis avoir votre... C'est ça qui m'a un peu impressionné, tu sais, le pace auquel vous allez, tu sais. Je saute un peu à l'avance dans mes questions, mais tu sais, moi, je suis habitué d'attendre des fois tellement longtemps. Par exemple, un jeu que j'ai vraiment adoré, Hollow Knight, il est sorti en 2017, le premier. Le deuxième a été annoncé il y a un certain nombre d'années, puis il n'est toujours pas sorti. Puis ça fait, ben là, c'est ça, on est rendu à genre 7 ans. Puis c'est un jeu, le premier est un jeu indépendant aussi, je pense fait par une équipe de peut-être 2-3 personnes.
Je crois qu'il était 3 pour Hollow Knight, oui.
Tu sais, dessiné à la main, ça ressemble... Visuellement, honnêtement, ça ressemble quand même un peu à ce que vous faites, tu sais. Puis, mais c'est tellement long, puis là, c'est comme... J'ai tellement hâte qu'il sorte, mais je sais qu'il travaille fort, puis tout. Fait que vous, dans votre cas, bon, ben, OK, justement, quand votre premier jeu est sorti, est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tout le monde se retourne les talons, puis OK, go, on commence le prochain, où il y a quand même un peu de transition, du débogage...
Il y a une période de transition, là. Il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Premièrement, l'idée du nouveau jeu, Don't Kill Them All, on a commencé à y penser avant même que Ship of Fools soit sorti. Parce que la façon que fonctionne une production de jeux vidéo, au début, il y a certaines étapes qui sont le game design, le concept du jeu qu'on développe. On va faire beaucoup d'éléments visuels, artistiques. On commence à faire des prototypes, faire les mécaniques de jeu. Et plus ça avance dans la production, bien, il y a plusieurs étapes qui viennent s'ajouter. Et quand on arrive vers la fin, c'est plus le moment de rajouter des nouveaux ennemis dans le jeu, des nouveaux boss, des nouvelles créatures, parce qu'à la fin, il faut s'assurer que le jeu ait une certaine qualité, il ne faut pas rentrer des bugs. Donc, ça devient plus une charge pour les développeurs de l'équipe qui vont s'assurer de régler tous les bugs, tous les petits problèmes, mais l'équipe artistique, l'équipe de design, de concept, oui, ils peuvent changer quelques paramètres, faire des petits ajustements de temps en temps, mais ce n'est plus rendu une job qui est temps plein quand on arrive à la fin du cycle de développement. Il y a plusieurs solutions pour ça. On peut commencer à travailler déjà sur le prochain projet ou nous, ce qu'on a fait aussi pour Ship of Fools, on a commencé à travailler sur des updates, des mises à jour de contenu à la fois payantes et des mises à jour gratuites qu'on a continué à sortir tout le long de l'année 2023 pour faire en sorte que notre cycle, notre équipe est toujours occupée et quand on a des temps morts ou que là, on n'a plus besoin de ces ressources-là sur un certain projet, bon, on a toujours un autre projet, un autre jeu dans le catalogue qu'on peut travailler dessus. Donc, Don't Kill Them All, c'est pas fait avec une équipe de 12 en ce moment. Il est parti avec une petite équipe pendant qu'on finissait l'autre jeu et tranquillement, on a rajouté quelques personnes, on a fait quelques transitions de ressources jusqu'à temps que là, ils deviennent le produit qu'on a présenté là, sur Kickstarter.
C'est tellement différent des projets d'ingénierie dans lesquels j'ai participé. Parce que là, quand même, Accès Innovation, on parle d'innovation, on parle beaucoup de science, d'ingénierie, puis là, on va en parler plus tard, mais tu sais, les jeux vidéo, je considère qu'il y a beaucoup d'ingénierie là-dedans. Là. Peut-être que le monde, je ne sais pas à quel point le monde savent ça, mais bon, avec toute la programmation qu'il y a derrière ça, mais dans les projets d'ingénierie auxquels j'ai participé, souvent, ce qui arrive, c'est que moi, mettons, en tant qu'ingénieur mécanique, ben je travaille sur le projet pas mal du début à la fin. C'est rare que mettons, rendu à telle phase de projet, ça arrive, là, mais tu sais, des phase-out, ça arrive, mais on est quand même souvent impliqué vraiment du début à la fin. Puis là, dans votre cas, d'un studio de jeux vidéo, ben là, on voit que du moment que vous amorcez, vous commencez un premier jeu, et puis que vous terminez le premier jeu, puis là, mettons, bon, là, OK, les artistes, la musique, eux, il faut qu'ils passent à autre chose. Ça me fait comme penser à une roue qui tourne. Ouais. Est-ce que des fois, ça doit être intimidant un peu d'être là-dedans, dans la roue qui tourne, puis là, dire, OK, là, on n'a pas le choix de continuer. Après, on ne pourrait pas dire, OK, là, on arrête, on prend une pause, ça continue, il faut que ça roule, il faut employer ce monde-là. T'sais.
Il faut voir arriver les choses deux, trois coups d'avance. Là. Donc, souvent, la recherche de financement pour les prochains projets, puis ces planifications-là se font en amont. Donc, il faut comme à la fois regarder le micro, qui est le projet sur lequel on travaille, mais le macro de quand est-ce que on va dire le casse-tête, on est en train de le construire, puis comment les blocs s'agencent les uns avec les autres pour faire en sorte que notre équipe est toujours bien occupée, peut travailler sur les projets, puis qu'on continue à faire rouler cette roue-là.
La roue. Fait que toi, de ce que je comprends, tu es quand même haut placé dans le studio. Je sais pas, c'est sûrement pas une hiérarchie tant que ça, mais
on est assez horizontal là, à la taille d'équipe, puis c'est un peu aussi dans les valeurs de l'entreprise là, qu'on veut pas que on veut vraiment pas que ça file autoritaire quand on travaille chez Pika. Mais je suis bon rôle au sein de Fika. Oui, je participe aux productions. J'ai fait un peu de programmation dans Shape of Fools, mais principalement, je suis un peu plus détaché. Je fais beaucoup la gestion du projet, un peu de design concept, mais le gros de mon travail, c'est de la planification, de la recherche de financement. Donc, c'est un peu le développement d'affaires, mais dans le domaine du jeu vidéo, ben c'est on agence un concept de jeu, on s'en va après ça le présenter à différents partenaires financiers pour les convaincre d'investir dans le projet, qu'on puisse le développer et continuer à engager des nouvelles ressources puis faire en sorte qu'on peut créer nos jeux. C'est ça.
Ben, tu sais, par rapport à ça, oh, excuse-moi, ça a bugué comme microseconde, excuse-moi, mais dans le fond, par rapport à ça, OK, toi, tu t'occupes du financement, faire des preuves de concept, aller chercher plus de financement, puis je vais tout de suite sauter une question que j'avais. J'ai remarqué que vous avez sorti votre premier jeu en collaboration avec Team 17, Team 17, là, qui agissait comme éditeur. Moi, dans le fond, je suis habitué plus à la nomenclature anglaise des publishers. J'imagine, bon, OK, Team 17 était comme un publisher, on dirait en anglais, éditeur en français. Donc, quel est le rôle d'un éditeur et l'impact sur l'innovation, selon toi, dans les jeux? Et là, aussi, deuxième question, pourquoi, pour votre nouveau, on ne voit pas vraiment Team 17? J'ai l'impression qu'ils ne sont pas impliqués, puis c'est plus Kickstarter comme plateforme de financement. Donc, on voit que vous avez deux choix, puis c'est intéressant parce que vous allez avoir les deux expériences, puis un peu les deux points de vue pour comparer un peu comment ça a été dans les deux cas, tu sais.
Oui, ben en fin de compte, c'est le bon terme, là, publisher, éditeur, c'est la même chose, donc on utilise les bons mots. Il y a principalement deux avenues qu'on peut faire quand on lance notre jeu. Dans le passé, les jeux, on vendait ça de manière physique. Fallait qu'on aille dans un magasin de jeux vidéo, dans un Walmart, et qu'on achète physiquement le jeu qu'on veut mettre avec le CD dans notre console ou la cassette, si on recule encore plus loin dans le temps. Et pour ça, ben, pour avoir ce pouvoir-là de créer les pochettes, d'avoir tout ce réseau-là de distribution, c'était obligatoire de passer par un publisher pour être capable de faire ça et de commercialiser son jeu. Donc, l'équipe de développement était responsable de faire le projet, le jeu. Et après ça, l'éditeur était responsable de le faire le marketing, le commercialiser, l'imprimer, le distribuer. Aujourd'hui, on a maintenant plein de plateformes qui sont digitales uniquement, comme Steam, qui est la plus grosse plateforme pour tous les jeux sur PC. Mais après ça, quand on achète un jeu sur Xbox, sur PlayStation, sur la Switch, oui, il y a des versions physiques des jeux qu'on peut acheter encore dans les magasins, mais maintenant, ils ont tous aussi leur équivalent, leur magasin en ligne, sur lequel on peut acheter de manière digitale uniquement. Donc ça fait en sorte que passer par un éditeur, c'est plus obligatoire pour être capable de distribuer son jeu. On peut s'auto-publier. L'avantage, par contre, c'est qu'ils ont une force de marketing, ils ont de l'expertise. Donc, eux investissent en budget marketing. Ils viennent aussi aider pour tout ce qui est la localisation, donc traduire ton jeu dans différentes langues, apporter des équipes aussi de tests. À l'interne, nous, on est 12 dans l'équipe. On n'a pas un testeur à temps plein qui est là pour trouver toutes les bugs du jeu. Mais en passant avec un éditeur, ben, eux ont leur équipe de testing. Donc, nous, quand on leur fournit une version du jeu, ils peuvent la tester avec une équipe là, de peut-être d'une dizaine de personnes, faire un petit review, nous sortir voici les bugs qu'on a trouvés. On est capable de travailler avec eux de cette façon-là. Donc, c'est un avantage pour ça, l'éditeur. Et le dernier point, qui est principalement, lui, pourquoi la majorité des studios indépendants recherchent de travailler avec un éditeur, c'est que souvent, ils vont apporter aussi du financement pour le projet. Donc, un jeu vidéo, on est une équipe de 12 personnes, donc c'est 12 salaires qu'il faut payer pendant plusieurs années pour développer un jeu. Ça a quand même des coûts assez élevés. Et pour ça, ben, l'éditeur, c'est une façon de venir avancer ce montant d'argent-là en échange d'un pourcentage sur les revenus du jeu. Donc, ils se prennent des royautés sur le projet parce qu'ils ont mis de l'argent, ils ont fourni des ressources aussi de leur côté pour nous aider à envoyer ce projet-là sur les différents magasins en ligne. Et donc, c'est comme ça que fonctionne l'entente. Nous, on a fonctionné avec un éditeur pour le premier jeu. Pour nous, c'était la façon la plus facile Je dis facile, c'est pas nécessairement facile avoir un éditeur dans le sens qu'il faut quand même avoir un projet qui est convaincu, il faut qu'il y ait envie, il faut que tu mettes en confiance que tu es une équipe et que ton projet va performer. Mais quand je dis c'est une option facile, c'est juste pour démarrer l'entreprise, le fait d'aller chercher le financement en amont pour pouvoir développer le projet avant qu'il y ait des ventes de jeux. Parce qu'au début, on travaille sur un projet, mais s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de revenus qui rentrent dans l'entreprise, comment on paye l'équipe? Ben, c'est cette façon-là qui était la plus intelligente pour notre premier projet. Par contre, comme on a mentionné, on envoie un pourcentage des revenus à l'éditeur. Donc là, pour le prochain jeu, on n'est pas encore fermé à travailler avec un éditeur, mais le fait de passer par une plateforme comme Kickstarter pour commencer, ça nous a permis d'aller chercher du financement initial qu'on mixe ça avec maintenant les ventes qu'on reçoit de Ship of Fools. Donc là, on est capable de faire un montage financier dans lequel on peut encore travailler avec un éditeur. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'un éditeur, mais si on a besoin d'un éditeur, c'est pas nécessairement le même montant d'argent. On n'a pas besoin de leur demander de financer l'entièreté de la production, ce qui nous permet aussi d'aller chercher maintenant un meilleur ratio sur les ventes du prochain jeu. Donc, ça devient vraiment une décision très commerciale, très financière, mais notre objectif, c'est d'être le plus indépendant possible, le plus autonome possible comme studio. Donc, si on a un jeu qui a un bon succès et qu'une bonne partie de ces revenus-là revient directement dans le studio, ben, ça nous permet de continuer à faire encore beaucoup d'autres jeux dans le futur.
Oui, puis c'est ça qu'on souhaite, que vous fassiez d'autres jeux dans le futur. Puis tu sais, par rapport à ça, tu as mentionné, OK, les tests, c'est un point sur lequel je me posais la question. Justement, vous êtes 12 personnes, comme tu as mentionné, vous ne faites pas nécessairement tester ça. J'ai déjà entendu dans le passé des studios indépendants donner des copies de leurs jeux en digital à des amis et de la famille pour qu'eux, ils les testent. T'sais. Fait que là, vu que vous ne faites pas affaire avec un éditeur, j'ai l'impression pour... ce jeu-là, comment vous pensez tester? Est-ce que c'est de la sous-traitance ou
t'sais... Oui, ben si on ne travaille pas avec un éditeur, ça va être en sous-traitance. En fin de compte, l'éditeur fournisse des équipes de tests, mais il existe aussi des compagnies qui sont spécialisées là-dedans. Donc, quand on arrive dans les phases où le jeu est proche d'être terminé, parce qu'on peut quand même faire nos propres tests à l'interne, donc on est quand même capable de trouver beaucoup de problèmes en amont avant d'avoir besoin de le faire tester à l'externe. Mais quand on va arriver vers la fin du développement, bien là, c'est un bon moment pour sous-traiter avec une équipe qui est dédiée à ça ou que là, on leur fournit des builds du jeu, tous les détails par rapport à comment fonctionne ce jeu-là, c'est quoi les mécaniques, comment ça devrait se passer. Eux le testent et ils vont nous remplir un backlog de tous les bugs et problèmes qu'ils vont trouver dans le jeu et là, ça nous permet de les régler.
Tu sais, je connaissais quelqu'un qui travaillait chez Binox, qui doit pas être loin de chez vous. Je sais pas où vous êtes à Québec.
Ils sont à deux coins de rue d'où ce qu'on est.
Et c'est bon. Ça, je me disais. Puis ben lui, justement, Binox, pour ceux qui ne savent pas, faisait du testing pour des jeux de Call of Duty. Peut-être que tu savais sûrement déjà, parce que je pense que Binox appartenait peut-être à Activision. Bon, la même famille que Call of Duty. Et de ce que cette personne-là me racontait, c'est que, parce que moi, ça m'intriguait full comment les jeux étaient testés. Puis il me disait que puis ce que j'ai comme appris avec le temps, c'est que les testeurs se font donner pour les gros jeux, on s'entend, c'est ça, je me demande, pour je sais pas fou, c'est comment, mais pour les gros jeux, ils se font donner comme un petit carré de sable, une fraction infime du jeu, puis là, c'est comme, OK, là, lâche-toi lousse, voici ce qui devrait arriver, puis là, n'importe quoi qui arrive pas là-dedans, donne-nous le. Fait que là, le gars, il sautait partout, puis là, il tirait partout, puis là, il faisait n'importe quoi, tu sais, absolument n'importe quoi, puis tout ce qui était anormal, il le prenait en note. Fait que dans votre cas, j'imagine que vous ne faites pas nécessairement des petits carrés de sable. Si le jeu, si c'est un petit jeu indépendant, tu sais, c'est pas un gros jeu à des milliards de dollars, tu sais, ben peut-être, mais bon, c'est pas un jeu aussi énorme que Call of Duty.
Non, on n'est pas dans les milliards.
Bon, OK, c'est bon. Pas encore. Fait que, tu sais, bon, fait que comment testez-vous justement? C'est-tu juste une copie du jeu standard?
Oui et non. On fait quand même des petits carrés de sable. C'est pas, peut-être pas la même façon que sur une grande, grande production qu'on va dire triple E, triple A. Que ça, c'est les blockbusters, les Call of Duty, les Assassin's Creed, les gros jeux. Dans notre cas, ce qu'on fait, c'est qu'on développe aussi certains outils de développement parce qu'il y a quand même une histoire dans le jeu, il y a quand même des éléments qu'on débloque, puis on veut tester une sauvegarde, pas nécessairement qui est toujours au début du jeu. Des fois, on va tester le début du jeu uniquement, mais après ça, on se fait des outils pour pouvoir se donner des ressources supplémentaires, se faire apparaître n'importe quel objet qu'on peut trouver dans le jeu, les faire apparaître sur notre bateau. Donc, tester différents scénarios, différentes séquences, différents boss. Donc, on crée plein de petits outils comme ça qui nous permettent à la fois, nous, quand on développe le jeu, de pas devoir, à chaque fois qu'on veut tester une mécanique de jeu, de devoir passer le jeu du début jusqu'à la fin pour se rendre là. Mais aussi pour les testeurs, leur faciliter la vie parce que les équipes de test, ben c'est du temps que ça coûte, donc c'est des taux horaires. Tu pourrais leur laisser le jeu en leur disant à commencer dès le début puis pas faire de carré de sable, mais ça va te coûter beaucoup plus cher de tests s'ils doivent procéder de cette façon-là.
Ben oui, ok, je comprends. Fait que vous leur donnez comme des packages avec des méthodes un peu trichées puis d'avancer ouais. peut-être plus loin, de se faire des sauvegardes.
Ouais, les fameux cheat codes, ouais. là, on en ouais. crée nous-mêmes pour okay. faciliter le développement. Puis je suis convaincu que dans la majorité des jeux qu'on a joué dans notre enfance ou qu'on utilisait des cheat codes pour se faire apparaître des choses, mais c'est probablement des reliques de leur environnement de développement que les développeurs se sont déjà servis de ces codes-là pour tester des choses dans leur propre jeu.
J'avais jamais pensé à ça, OK? Donc là, ils les conservent, puis ils décident sûrement à la fin de comme les adapter et de les publier, mais est-ce que tu es en train de dire que, mettons, dans votre cas ou dans les cas des gens en général, est-ce que les cheat codes existent encore? Est-ce qu'il y a encore des manières d'accéder à ces environnements de test-là? Parce qu'en fait, je dis ça, puis je me rappelle que dans Skyrim, il y a moyen d'aller dans une pièce quand si tu es capable de glitcher, là, mettons, au travers du sol, là, tu tombes dans le plancher, là, puis il y a moyen d'arriver dans une pièce avec, mettons, tous les items du jeu, puis c'est comme un environnement pour tester les armes, par exemple. Puis je sais que ça existe, mais...
C'est probablement une scène pour les développeurs qui ont décidé de la mettre dans le jeu, de la cacher en petit easter egg. Là. Donc, je suis pas mal convaincu que la majorité des cheat codes qu'on a dans les jeux, c'est volontaire quand même des équipes de les avoir laissés là. Okay. Mais c'est pas un oubli, ça c'est certain, mais qu'ils se sont dit, ben pourquoi pas, si les gens le trouvent, ils vont pouvoir s'amuser puis avoir du fun avec ça. Là.
Mais c'est tellement hot pour de vrai que vous... Dans l'environnement des jeux vidéo, c'est intéressant de pouvoir tester comme ça parce que, mettons, quand tu as des appareils, quand tu travailles, mettons, à développer un appareil que tu dois construire physiquement, puis là, en jeu vidéo, c'est les avantages de la programmation, mais quand tu dois construire physiquement un appareil, par exemple, et le vendre, pour tester ton appareil, tu dois le construire quasiment au complet. Tu sais, c'est tannant, là, c'est vraiment long, tandis que dans un jeu, ben c'est intéressant parce que tu peux comme... J'ai l'impression que c'est un peu plus accessible, tu sais, avec la programmation, c'est un peu plus rapide de tester des itérations, tu sais, fait que ce côté-là est tellement intéressant, puis ça doit vraiment favoriser l'innovation, puis favoriser les cycles de développement.
Oui, puis tu sais, il y a quand même aussi tout si on descend un petit peu dans l'ingénierie logicielle, oui, il y a les tests manuels qui, dans le cas d'un jeu vidéo, sont presque obligatoires à faire parce qu'on peut pas... maintenant, il existe des AI là, qui permettent de faire des tests, puis tout ça, puis de jouer... dans les jeux, mais c'est quand même beaucoup de configuration et de travail pour ça. Oui, il y a les tests manuels qui peuvent être faits, mais il y a aussi des tests unitaires. Donc, comme dans beaucoup des projets d'ingénierie logicielle plus classiques, des fois, de faire des tests à même nos fonctionnalités pour s'assurer que la base de code fonctionne comme elle est censée fonctionner quand on ajoute des nouvelles mécaniques, ça existe aussi. On peut en faire, mais il y a plus une limite. Tu sais, mettons qu'on développe une application web et on a besoin d'un back-end, d'un serveur super solide qui t'envoie des requêtes toujours de la bonne façon, pas buggé. Il y a manière de faire en sorte qu'il n'y a pas une seule des requêtes sur ce back-end-là, qu'il n'y aura pas un test unitaire qui va venir s'assurer que ça envoie la bonne affaire tout le temps. Dans le cas d'un jeu vidéo, il faut vraiment arriver à séparer qu'est-ce qui est vraiment influencé par ce que le joueur fait avec la manette, qui est comme une zone qui est un peu plus un carré de sable où que la personne peut faire pas mal ce qu'elle veut et qu'est-ce qui est vraiment notre domaine d'affaires où si je dis à un personnage, OK, tu reçois une attaque, elle te fait 3 de damage, donc tu perds 3 points de vie, mais t'es assuré que ce personnage-là a vraiment 3 points de vie de perdu au moment qu'il reçoit le coup. Ça se teste aussi unitairement puis on peut ajouter ça dans notre code pour s'assurer de créer moins de bugs.
Ben, j'imagine que ces tests-là, vous pouvez les J'imagine que si vous les testez, vous les testez peut-être plus à l'interne chez Fika et non, vous traitez peut-être moins ça. Là,
ces tests-là, on fait ça à l'interne à même que de développer le projet. On peut faire en sorte que ces tests-là, quand on fournit une nouvelle version du jeu, quand on crée un nouveau build, que ces tests-là roulent automatiquement. Donc, on est certain qu'ils ont passé et sinon, le jeu ne compilera même pas si les tests ne passent pas. Donc,
OK, il fait des tests en temps réel direct. Excuse-moi de t'interrompre.
Oui, exactement. Okay. Au moment qu'on dit « OK, j'ai une version qui est prête, je la lance », on peut décider « OK, ben, ces tests-là vont passer » puis si ça passe pas, ben, il ne fera pas le build puis il va dire « Non, tu as ces problèmes-là encore à régler avant de pouvoir envoyer cette version-là entre les mains de quelqu'un. »
OK, c'est quand même intéressant. Je pensais pas quand cette fraction. Ben, je sais pas combien de temps ça prend à compiler le jeu, mais je pensais pas qu'aussi rapidement tout ça se testait. C'est quand même intéressant.
Ouais.
Puis là, justement, OK, là, tu me parles, là, tu m'en apprends full sur du génie logiciel. Il y a des notions de finance derrière ça. Fait que là, avant d'aller plus loin, il faut que je te demande un peu c'est quoi ton background?
Parce
que ça m'intrigue aussi.
J'ai étudié en ingénierie logicielle à l'Université Laval, principalement.
Okay. OK, c'est ça, parce que le monde, peut-être, qui se demande, OK, pour aller en jeu vidéo, tu sais, c'est comme il y a beaucoup de monde que quand ils sont enfants, ils se disent, ah, je vais faire des jeux vidéo. Puis là, on voit, donc là, on a un exemple de qu'est-ce qu'on peut faire pour se rendre là, tu sais, si.
Il y a plein de façons de travailler dans le domaine du jeu vidéo parce que c'est très varié. Donc, quelqu'un qui peut faire de l'art, de l'animation, de la musique, du sound design, du testing tout simplement, de la programmation, game design. Il y a tellement de corps de métiers différents qu'il y a plein de façons d'avoir son chemin et de travailler dans le domaine du jeu vidéo. Même pour l'entreprise, on a aussi des jobs qui sont que de marketing, communication. On a de la gestion de communauté, de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Je veux dire, il y a beaucoup de chemins de carrière qu'on peut prendre qui font en sorte que finalement, je travaille dans le jeu vidéo. Donc, c'est pas nécessairement la programmation ou l'animation. C'est pas les deux seuls chemins possibles pour arriver là. Dans mon cas, ça a été l'ingénierie logicielle. Puis c'est ça pour plusieurs des cofondateurs du studio. Là, en fin de compte, on est trois du bac de génie logiciel à l'Université Laval et deux autres qui étaient au BASA, qui est le bac en arts et sciences d'animation, qui était aussi à l'Université Laval. Donc, on est cinq cofondateurs du studio qu'on s'est mis ensemble au début pour démarrer ça à la fin de nos études. Là.
Fait que, comment vous connaissiez ces gens-là dans le bac en arts?
Amis d'amis.
OK, c'est bon. Okay,
au début, on était les trois programmeurs, on va dire, et on s'est dit, faut que ça soit beau pour que ça se vende des jeux. Donc, on a besoin de trouver des gens qui font de l'animation, qui font de l'art. Et par notre réseau de contacts d'amis, on est tombé sur des gens qu'on connaissait quand même un peu déjà, puis on s'est parlé, on s'est dit on a un nouveau projet qu'on veut démarrer à la fin de nos études. Et ça la chimie ça l'a cliqué tout de suite. Là. Donc on a démarré le studio comme ça. Là.
C'est tellement. Ouais, c'est hot que tu sais, on voit clairement dans les deux jeux qu'on connaît de votre studio, mettons, il y en a un qu'on connaît un petit peu moins, mais les deux le jeu annoncé et le jeu sorti. On voit vraiment un fil conducteur dans la manière que vous opérez, puis peut-être je serais curieux d'en apprendre un peu plus sur si c'est intentionnel ça, dès le début, quand vous avez launché le studio, de faire ça, parce que là, mettons dans le cas de Ship of Fools, peut-être que des gens qui sont un petit peu moins habitués que moi ne le remarqueraient pas, mais je vois clairement qu'il y a une... J'ai l'impression que c'est volontaire de mixer différents genres ensemble. Donc là, on voit des éléments de roguelike, de coopération, puis on voit un genre d'anarchie que je ne sais pas d'autres comment l'appeler, mais une genre d'anarchie du jeu Overcooked, qui est un jeu de cuisine.
On pourrait dire du chaos.
Ouais, chaos, c'est ça. Juste chaos. Tu sais, le chaos, tu sais, parce que Overcooked n'est pas un roguelite et tous les roguelites ne sont vraiment pas comme Overcooked. On voit vraiment qu'il y a un mélange de ça. Est-ce que quand vous avez créé le studio, vous vous êtes dit, OK, nous autres, on va faire des mix de genres totalement qui ne fitteraient peut-être pas ensemble d'habitude, mais dans notre cas, va fitter, ou ça s'est juste venu naturel?
C'est plus nu naturel par quand on décide de démarrer un nouveau projet de jeu, il y a des milliers d'idées de ce qu'on peut faire. Puis après ça, il faut arriver à trier sur c'est quoi le prochain jeu, c'est quoi qu'on bâtit. Il y a plein de façons. C'est très particulier parce que dans beaucoup d'industries, on est dans des industries de need, de besoin. Donc on crée un produit pour répondre à un problème. Dans le cas du jeu vidéo, on est plus dans l'industrie, on va dire, du want, parce que c'est le divertissement. J'ai pas besoin que Ship of Fools existe. Par contre, si je le vois, je peux dire, hey, ça donne bien de l'air le fun, j'ai le goût de jouer à ça. Fait que par après, ça devient un besoin. Genre, OK, maintenant, je le veux, ce jeu-là. Je veux participer à cette expérience-là. Mais c'est un peu pour la même chose pour le cinéma, pour la musique, ou que de la musique, il y en a plein. Il y a plein d'artistes, il y en a tellement de chansons que toute une vie, je ne pourrais pas écouter tout ce qui existe dans le monde qui est déjà sorti. Il y a encore des chansons qui sortent à toutes les années. Donc, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, ces artistes-là? Ben, c'est une industrie de want. Les gens ont envie de découvrir des nouvelles choses et d'en apprendre plus. Je pense que c'est notre curiosité. On devient ennuyé facilement, les êtres humains. Donc, ça nous permet de rester, de toujours avoir de quoi de nouveau qui nous motive et qu'on a envie de découvrir. Donc, ouais, je reviens à comment on... Oui.
C'est stimulant, excuse-moi.
Donc, comment on en revient, comment on choisit quel projet on fait? Bien, on commence souvent par c'est quoi que nous, on aurait envie de jouer. Puis, un des éléments qui est arrivé, c'est que les roguelites, on en connaissait déjà plusieurs. C'est un style de jeu qu'on aimait, puis qu'on aimait la rejouabilité de ce style-là, qui faisait en sorte qu'on peut toujours essayer de quoi? C'est des petites parties rapides, mais qu'à chaque fois, ça feel différent, même si tu joues exactement au même jeu et que tu pars exactement au même point de départ. Donc, on aimait ce style de jeu-là. Puis, on aimait aussi les jeux coopératifs. On aimait ça jouer ensemble à différents jeux. On aimait aussi les jeux de société. Et là, on s'est dit, OK, mais quand on essaye de jouer à certains roguelites qui ont des options coop, c'est vraiment pas optimal comme jeu parce que souvent, on a de la misère à avancer aussi loin que quand on le faisait en solo. Donc là, on s'est dit, ben, on va essayer de créer un jeu qu'on aimerait jouer, un roguelite dans lequel on peut être en coop. Et c'est là que les idées de design ont commencé à bâtir où on va partager le même véhicule. Ça va donner un petit peu le feeling de quand on était jeune puis on jouait à Halo puis il y avait quelqu'un qui conduisait, l'autre qui tirait avec la tourelle. Donc, on avait un peu ce feeling-là qu'on voulait recréer, que finalement, le design a évolué. On n'est vraiment pas dans le style de Halo avec Shape of Fools, mais il y a quand même cette petite énergie-là de coopération qu'on a voulu venir ajouter dans un style qui, normalement, n'avait pas de coopération. Donc,
wow, ouais. Donc naturellement, ça l'a mené vers ça. On voit vraiment...
Donc, on est devenu comme notre propre public cible. Ouais, on s'est dit, regarde, si nous, on le veut, est-ce qu'il y a d'autres gens qui le veulent? On a quand même fait une étude de marché pour développer le projet parce qu'une fois qu'on a tout l'éventail de qu'est-ce qu'on peut faire, on veut valider aussi cette idée-là avant d'investir des années de notre vie à travailler là-dessus. Donc, on est allé sonder des gens sur Reddit, on est allé voir les reviews de différents jeux. Donc, ça a été assez exhaustif pour aller voir qu'est-ce que les gens recherchent, qu'est-ce qu'ils veulent dans un jeu coopératif, c'est quoi leur frustration quand ils jouent à tel type de jeu. Puis nous, on apprend de ça et on s'en sert pour justement innover, créer des nouvelles mécaniques, créer des façons de répondre à leurs problématiques dans différents autres jeux qu'on aime aussi, qu'on vit aussi les mêmes problématiques dedans. Là.
Fait que c'est une genre de recherche de marché, mais vraiment... honnêtement, c'est drôle parce que récemment, j'en parlais des recherches de marché avec un de mes amis, puis on se dit à quel point ça doit être du travail incroyablement compliqué. Puis tu sais, mettons, t'ouvres un... En fait, c'est avec mon frère qu'on parlait de ça, parce que on parlait, tu sais, quand t'ouvres un nouveau restaurant dans un quartier, puis le restaurant, il pogne pas, il doit avoir mille et une raisons, puis ça doit tellement être compliqué, tu sais, de prévoir à l'avance. OK, le restaurant, il va faire sa job, il va vendre beaucoup à cet emplacement-là. Il y a tellement des facteurs externes. Donc, dans un jeu, fait que là, OK, tu as mentionné que vous avez fait des posts sur Reddit, vous avez questionné, vous avez demandé, lu des reviews, vous êtes informé. Aviez-vous un éditeur à ce moment-là? Sûrement pas.
On n'avait pas encore d'éditeur. C'est là où on faisait nos propres devoirs de est-ce qu'on a envie réellement de bâtir ce projet-là? Est-ce qu'il y a une place dans le marché pour ce jeu-là? Puis une fois qu'on l'avait, puis on a aussi ces arguments-là, ça nous a aidé à convaincre aussi un éditeur. L'éditeur va faire aussi ses propres études, va faire ses propres analyses de marché, ses comparables de vente, il va regarder les jeux similaires. Est-ce que c'est un style de jeu qui vend ou d'habitude, tous les jeux qui sortent de ce style-là ne fonctionnent pas du tout. Mais le fait d'arriver déjà avec des munitions, quand tu arrives à la négociation, bien ça aide à convaincre quelqu'un de financer ton projet.
Puis comment, puis tu sais, il doit y avoir aussi un élément, ça doit être tricky aussi, j'imagine, parce que sûrement que quand tu fais un post sur Reddit, puis là tu demandes, hey, est-ce que ça vous intéresserait un jeu coopératif roguelite, tout le monde va être comme, ouais, oui. Mais là, après ça, quand tu le vends, ça se pourrait que, bon, là, peut-être après le temps que ça a pris à développer, tu sais, les tendances ont changé, tu sais, par exemple, il y a des jeux, tu sais, les jeux maintenant, les gros jeux, comme tu as mentionné tantôt, AAA, tu sais, les gros budgets. Je pense que GTA 6, le nouveau GTA va être dans les 2 milliards de dollars de coûts de développement là, que j'ai lu. C'est insane. Est-ce que... j'allais perdre mon fil, mais là, bon, OK. Quand tu penses que ça prend, mettons, 8 ans à développer un jeu, mettons, comme Hollow Knight aussi, là, au début, tu fais une étude de marché, Puis là, 8 ans plus tard, tu te rends compte que là, finalement, le marché a complètement changé. Tu sais, ça doit être quand même tricky. Là, dans votre cas, vous avez des cycles de développement qui sont souvent plus... Ben, on s'entend peut-être plus court que 8 ans, fait que c'est plus agile.
Ouais.
Mais ça doit tellement être tricky à naviguer, tout ça.
Il faut se baser un peu sur notre instinct aussi. Comme je dis, on est notre propre clientèle cible. Il faut faire attention. Il faut se dire, OK, on n'est pas seul sur la planète, donc il y a d'autres personnes qui vont penser comme nous, qui ont le même besoin, le même désir que nous. Par contre, il faut faire attention à ne pas tomber non plus en amour avec son projet et puis être critique, parce qu'il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte qu'un jeu ne fonctionne pas. Et si le jeu, tu réponds à « OK, ça n'existe pas un roguelite co-op, mais ce que tu sors, il n'est pas le fun », il ne vendra pas. Tu as bien beau faire une grosse job de marketing, d'avoir ciblé le bon marché pour faire ça et tu as la meilleure idée, si l'exécution n'est pas là, ben, le produit ne vendra pas non plus. Donc, je pense que dans les cas des grandes productions et qui prennent du temps, Hollow Knight, c'est un bon exemple. Hollow Knight, eux, ils ont un heureux problème. Le premier jeu a tellement été un gros succès que le prochain Hollow Knight, c'est un des jeux les plus attendus au monde. Et c'est un jeu indépendant. C'est ça qui est fou. C'est fait par quelques personnes et c'est un des jeux les plus attendus. Il est tellement attendu que pour eux, ça doit être une pression énorme de faire un produit qui est parfait. Il ne faut pas qu'il y ait de faute là-dedans. Il faut que ça soit un 10 sur 10 quand ça sort.
Parce qu'il va être analysé à la loupe. Tout le monde va avoir ses attentes.
Exactement.
Dans le
Donc ça, c'est la raison, d'après moi, pourquoi Hollow Knight prend tellement de temps avant d'avoir sa prochaine version. C'est pas que le jeu... Il doit être proche d'être prêt, mais il ne doit pas être encore assez parfait à leurs yeux. Et plus ils attendent, plus l'attente augmente aussi en conséquence. Donc, c'est sûr que ce jeu-là va sortir, ça va vendre comme des petits pains chauds, tout le monde va vouloir jouer au nouveau Hollow Knight. Mais en même temps, ils ne peuvent pas se permettre de sortir un Hollow Knight qui est comme... qui n'est pas un bon jeu. Donc,
ben ouais,
donc c'est pour ça le délai, là, c'est sûr.
Hey, c'est ça. Hey, ça doit tellement être incroyable, c'est ça, la pression qu'ils ressentent là, sur leurs épaules, effectivement. Tu sais. Ça me faisait penser, il y avait une question, ah oui, par rapport à ça, tu sais, ça m'a fait penser que, c'est sûr qu'au niveau artistique, moi, c'est un domaine auquel je suis un petit peu moins familier, puis toi, tu dois commencer, même si tu as fait un bac en génie, tu dois, à force de travailler avec...
Ça fait 6 ans qu'on a démarré le studio, donc oui, on commence à... On commence à connaître ça. Je ne suis pas encore bon à dessiner, peinturer à ce point-là, mais de connaître les termes et d'être capable de discuter de sujets techniques avec les artistes, ça va bien.
Tu sais, ça doit être. Je m'imagine que ça doit être un monde quand même différent, dans le sens que quand on fait, mettons, de l'ingénierie, on a des requis. Là, vous avez mentionné l'économie du want et non du need. Donc là, quand on fait un produit, okay, il y a quand même des requis, même si c'est une économie de want et non de need. Mais c'est peut-être un petit peu plus dur à clarifier, c'est quoi des requis artistiques? Parce que je pense que des requis artistiques, c'est un peu plus subjectif. Donc là, quand tu fais un bien artistique comme un jeu vidéo qui est un peu à la croisée entre l'art et l'ingénierie, ben, à un moment donné, il doit peut-être avoir des tensions. Y a-tu des tensions des fois qui arrivent? Puis là, OK, là, il faut sortir le jeu, on a tant de budget, mais là, mettons, d'un point de vue artistique, on n'est pas totalement satisfait. Puis là, ça doit être dur des fois de tracer la ligne puis de dire non, là, c'est suffisant ou non, c'est pas suffisant. Tu sais, c'est tellement subjectif.
Oui, ça arrive, là. Ça arrive tout le temps dans une production et c'est là qu'il faut faire des choix. Et je pense qu'il faut... On analyse chaque nouvelle fonctionnalité, chaque problème, chaque bug qui peut arriver en regardant c'est quoi le coût de changer, de corriger le problème et c'est quoi l'impact que ça va avoir. Donc, clairement, si y a un élément visuel qui est complètement différent du reste du jeu, tu sais, qui ne fit pas dans la direction artistique, ben ça, il faut le changer absolument. Ça a un gros impact sur l'expérience que le joueur va avoir. Donc, il faut aller corriger ça. Mais après ça, il y a des bugs aussi de développement. Si on n'est pas capable de contrôler le personnage puis il bug quand il se déplace, est-ce que c'est plus prioritaire qu'un élément visuel finalement qu'on aime moins? C'est là qu'il faut trouver une certaine balance. Idéalement, on veut que ça soit bien des deux côtés, mais ça arrive de temps en temps qu'il faut trancher la ligne. Et de temps en temps, ça va aller du côté du gameplay, du développement. De temps en temps, ça va quand même aller du côté artistique. Faut atteindre cette balance-là. Il faut se poser la question de pourquoi on fait ce jeu-là. C'est où qu'on veut l'axer sur un axe de est-ce qu'on veut... Le plus important, est-ce que c'est l'histoire qui soit mise de l'avant? C'est-tu le visuel? Est-ce que c'est les mécaniques de jeu? Ou c'est la technologie? On a quelque chose qu'on est en train de développer qui est vraiment unique, puis ça, c'est ça qu'on veut axer avec le projet. Fait que c'est comme 4 axes qui sont en opposition Et il faut après ça savoir notre jeu est situé où là-dessus pour savoir, pour nous aider à prioriser les problèmes, les bugs, les fonctionnalités.
Fait que ça, c'est un peu comme les valeurs d'une entreprise quasiment qu'on pourrait s'imaginer. Les genres de fondements à partir desquels tu construis ça. Fait que ça, vous décidez au début.
Oui, on appelle ça, les piliers de design d'un jeu. Puis souvent, les piliers de design, des fois, ils vont avoir leurs sous-piliers, les sous-piliers artistiques, les sous-piliers de développement, tout ça. Mais on sort c'est quoi les grandes lignes, c'est quoi la vision de ce jeu-là, qu'est-ce qu'on est en train de bâtir. Et on essaye d'aller s'accrocher à le plus de piliers possible pour chaque élément qu'on crée dans le jeu.
Là. Aïe, fait que là, mettons, pour Shape of Fools, là, je l'ai acheté, je voulais jouer avec ma blonde, mais on n'a pas eu l'opportunité encore. Fait que là, pour quand je vais jouer, est-ce que tu pourrais me dire un peu c'est quoi les piliers de ce jeu-là? Peut-être que je pourrais sûrement m'en douter, mais je serais curieux d'entendre de ta bouche.
Les piliers de Shape of Fools, hey, pour vrai, ça fait longtemps qu'on les a couchés sur papier. On est tellement rendu à un autre projet, mais un que je me rappelle très, très bien, c'était le 1 plus 1 égale 3. Donc, nous, on avait nommé ce pilier-là pour faire en sorte que c'est un jeu coopératif. Et on veut pas que on. Ben, en fin de compte, c'est dire le tout est plus grand que la somme de ses parties. Donc, on veut faire en sorte que quand les joueurs coopèrent ensemble, le résultat va être bien plus fort que si chacun faisait exactement la même chose de manière individuelle. Donc, beaucoup de nos mécaniques de jeu sont axées là-dessus et on les renforce aussi avec des éléments artistiques, tout ça. Donc, quand on fait certaines combinaisons, par exemple, on a des balles de canon qui font de l'huile, d'autres qui font du feu. Bien, quand les deux sont mixés ensemble, ça fait beaucoup plus de dégâts. Donc ça, on le voit visuellement sur la créature et tout ça. Donc ça, c'était un des piliers importants de Shape of Fools.
OK. C'est vraiment... Fait que c'est un bon jeu de team building, probablement.
Oui.
C'est ça qu'on peut s'imaginer.
Un autre élément qu'on avait avec le Shape of Fools, c'était aussi le contraste. Là. On voulait qu'il y ait beaucoup de contraste sur plein de choses. Donc, les monstres sont très méchants. Par contre, nos personnages ont un peu de l'air idiot, un peu loufoque. Donc, d'avoir ce cute, mais un peu sombre en même temps, là. On le voit partout dans le jeu, dans l'humour, dans les textes. Donc, souvent, un pilier, c'est bien quand ça nous permet de, à la fois, régler des problèmes au niveau des mécaniques de jeu, que des problèmes artistiques, d'écriture, d'histoire, tout ça. Donc, le plus qu'on est capable de couvrir d'éléments d'un projet avec un pilier, plus le pilier est fort, là.
Ouais, c'est... ouais, c'est... OK, mais je peux imaginer, parce que c'est ça, à la fin, c'est ça qui va... Quand vous annoncez ou quand on joue au jeu, c'est ça qui ressort, puis j'imagine en plus que dans une économie du besoin... d'une économie du want, comme tu as mentionné, si vaste, avec, je pense que par année, j'avais lu des données, c'est quoi, c'est des sur PlayStation Network, c'est peut-être 12 000 jeux qui sortent par année. À cette heure, on est rendu. Il y en a tellement, tu sais, vous devez... Tout le monde est obligé de stand out quand même, puis de laisser sa marque. Sans faire ça, je peux pas imaginer que ça pourrait fonctionner. Quelqu'un serait capable de laisser sa marque sans avoir des piliers qui ont vraiment de l'intention. Là.
C'est une industrie qui est assez difficile quand même, le jeu vidéo, justement, avec la quantité de jeux qui sortent, avoir de la visibilité, que premièrement que les gens découvrent que ton jeu existe, c'est difficile. D'où un des chemins qu'on prend, c'est d'aller travailler avec un éditeur qui a une très grosse force marketing, des fois qui a déjà aussi un nom déjà bien établi. Donc, il y a certains éditeurs que tous les jeux qui sortent, les joueurs sont fans de cet éditeur-là, donc ils vont regarder ce qui sort, peu importe c'est quoi qui lance. Là. Un des bons exemples de ça, c'est Devolver. Ils ont une énorme fanbase. Donc, il y a des gens que, OK, c'est un jeu Devolver, je l'achète. Ça ne pose pas de question. Donc, si tu es signé avec cet éditeur-là, tu as déjà une garantie d'avoir des yeux sur ton projet juste parce que tu es sous le nom de Devolver. Donc, c'est une façon de se démarquer. Mais une autre façon, c'est vraiment d'avoir un produit qui sort du lot. Donc, le mix de genre, on en parlait tout à l'heure, mais c'est une façon de sortir du lot. On essaie de faire de quoi qui est unique, qui n'a jamais été vu. Donc, ce n'est pas un objectif pour FICA de faire des mix de différents styles de jeux, mais c'est un objectif pour nous de faire des produits qui sont uniques. On ne veut pas juste faire un jeu qui est exactement la même chose qu'un autre jeu, mais qu'on a changé un peu les visuels, puis qu'on a fait ça dans un autre univers, puis tout ça. On veut vraiment faire des jeux qu'on aurait envie nous-mêmes d'y jouer. On a envie que ce jeu-là existe et de le partager après ça avec la planète.
ça a du sens. C'est plus le besoin d'être unique, puis je le vois, là, je comprends dans la manière que tu l'exprimes. Là. Mais oui, tu sais, Teams, tu sais, dans votre cas, avec l'éditeur Team 17, pendant que tu parlais, puis tu mentionnais un peu, tu faisais l'exemple avec Devolver, qui ont vraiment une énorme, d'association, là, les joueurs, quand ils voient un peu ce nom de publisher-là, ils associent ça à des jeux qui sont, ben, en tout cas, pour mon cas, des jeux qui sont généralement assez bons. Team 17, je vais juste dire ça de même, c'est-tu eux qui ont publié Blasphemous aussi,
me semble que...
OK, fait que là, je pense que c'est le seul exemple quasiment d'un jeu que j'ai joué, ou presque, là, avec de eux, là. Puis le 2, Blasphemous 2. Blasphemous, excellent. C'est tellement hot, Blasphemous.
Team 17, dans leur jeu qu'ils ont publié, assez connu, Blasphemous, ça en fait partie, mais Overcook aussi. C'est eux qui sont derrière Overcook.
Et oh my God.
C'était une des raisons principales pourquoi on avait ciblé Team 17 comme un de nos choix numéro un comme publisher pour Ship of Fools. On le savait qu'on avait une partie de notre jeu qui avait ce chaos-là coopératif qu'on voit dans Overcook. Donc, ça a été un fit assez naturel entre notre style de jeu qu'on fait et le genre de jeu que Team 17 publie. Team 17, par contre, ont un catalogue, tu sais, c'est assez large le style de jeu, comme Blasphemous, c'est très loin d'un Overcook. Devolver sont un peu plus centrés sur le style de jeu, qui vont souvent avoir des caractères un peu plus matures, violents, très artistiques aussi, comme si ça va pas dans la violence, ça va dans de quoi qui est comme, OK, c'est un produit artistique, une œuvre d'art, là, ce qui est en train de sortir, là, sont dans ces deux extrêmes-là, Devolver.
C'est juste à titre d'exemple, je pense que un des derniers jeux Devolver que j'avais hâte qui sorte, ça s'appelle, je pense que c'est Devolver, ça s'appelle Anger Foot.
Ouais.
Je sais pas si tu connais ça, c'est juste, tu donnes des coups de pied partout, c'est juste ça quasiment.
Il est sorti,
ok.
Ouais, il est sorti, cette année.
Ah, nice, ok, nice, ouais, je regarde pour l'acheter. Fait que, ok, génial. Bon, fait que là, on a mentionné, OK, on a parlé de ton background, on a parlé des quand même assez en profondeur des méthodes que vous employez pour développer les jeux, mais il y a juste une petite affaire qui me restait par rapport aux méthodes, et c'est les engins. Fait que là, le monde, tu sais, qui connaissent peut-être moins ça, moi, je sais c'est quoi un game engine, tu sais, c'est vraiment dans ma tête à moi, comme je le comprends, c'est le logiciel dans lequel le jeu peut être construit, puis il existe des engins un peu plus, pas libre-service, mais un peu standard ou qui sont assez polyvalents, sur lesquels tu peux faire plein de choses, mais peut-être un petit peu moins te spécialiser. Fait que vous, dans votre cas, mettons Unreal Engine, j'en donne un exemple, Unreal Engine, Unity, c'est genre des logiciels que tu peux quasiment n'importe qui peut télécharger chez eux pour l'essayer. Fait que vous, dans votre cas, avez-vous développé votre propre engine ou vous avez regardé un engine qui existait déjà? Ou
c'est nous, on est allé sur Unity. Raison principale, les deux principaux joueurs, c'est vraiment Unreal puis Unity. Après ça, il y en a d'autres, dont Godot, qui est un libre de droit. Il y a des engins pour des jeux web. Et il y a beaucoup d'engins propriétaires que chaque grand studio ont leur propre engin optimisé pour le style de jeu qu'ils font. Nous, Unity, ça a été... On part, on fait notre premier jeu. Quand on va vers le Unreal, c'est souvent qu'on veut aller vers des jeux plus 3D et aussi des jeux qui ont plus des rendus très réalistes. En allant vers Unity, c'est très facile comme engin pour aller dans les jeux un petit peu plus stylisés. Et nous, on était dans le 2D, 2.5D. Donc pour nous, c'était un engin qui était plus facile à travailler pour ce style de jeu-là qu'on allait développer. Et l'autre élément, c'est beaucoup de fonctionnalités, un engin de jeu. Ça permet de gérer énormément de parties du logiciel, que ce soit les entrées des manettes, la boucle de jeu, tout ce que le rendu, les textures, il y a plein de choses que quand on décide de bâtir notre propre engin, qui n'est pas impossible, il faut tout faire ça. Il faut aussi faire toutes les fonctions de UI, d'interface utilisateur, pour que tous les membres de l'équipe puissent interagir avec cet engin-là. Donc, créer un engin, c'est un énorme projet de développement logiciel qui fait du sens quand ton projet sur lequel tu travailles, tu continues à le maintenir pendant des dizaines d'années, comme un Call of Duty qui doit avoir son propre engin en arrière, parce qu'ils peuvent l'adapter, ils peuvent le corriger. Donc, ils ont une équipe de développement là-bas qui est dédiée uniquement à travailler sur cet engin-là et d'ajouter des fonctionnalités pour les besoins des prochains jeux qui vont sortir ou régler les bugs qu'ils ont en production. Encore une fois, on revient sur le fait qu'on est une petite équipe, on est 12. Ça peut prendre plus qu'une année de développer un engin. Dans notre cas, ça ne faisait pas vraiment de sens pour le style de jeu qu'on faisait. On a connu un autre studio à Québec qui s'appelle Polymorph, qui ont développé eux leur propre engin. Ils font un jeu de city building dans lequel médiéval, là, un peu organique, où les villageois s'installent eux-mêmes, créent eux-mêmes leur maison. Le jeu s'appelle Foundation. Et eux ont créé leur propre engin de jeu parce que dans leur cas, ça faisait vraiment du sens avec le genre de mécanique de jeu qu'ils voulaient développer, de créer un engin qui permet de supporter cette façon-là organique de créer des villages médiévaux. Donc, eux se sont lancés, OK, c'est l'engin en premier qu'on va développer, il va nous permettre de créer notre jeu. Nous, dans notre cas, on est allé avec Unity par souci de simplicité de nos besoins.
Oui, on peut voir que dans les deux exemples que tu as mentionnés, puis je pense que Foundation, je pense j'ai déjà vu ça, dans les deux exemples, on voit que l'innovation peut être favorisée de deux manières différentes. Donc là, quand dans le cas de Polymorph, ils ont quand même une petite équipe pareille, mais ils ont tellement un concept unique et différent, qu'il n'y a pas vraiment d'engin actuel qui fait beaucoup de sens de l'utiliser, donc ils font leur propre. Mais dans votre cas, ça favorise l'innovation parce que vous avez l'accessibilité à faire votre idée puis la mettre sur papier sans avoir à vous casser la tête puis à dépenser des ressources sur construire des menus, des UI, des compatibilités, des manettes, des affaires qui sont un peu la base, tu sais, que beaucoup de jeux ont comme en commun, là. Fait que je trouve ça intéressant que dans les deux points de vue, tu sais, je m'attendais vraiment pas, ton exemple de polymorphe est quand même bon, mais je m'attendais pas à ce que des petites, que, je pensais pas que ça existait des petites équipes québécoises qui faisaient leur propre engine comme ça, ouais. Tu sais. Moi, l'exemple, tu sais, l'exemple que j'ai en tête, là, qui est un exemple assez énorme, c'est un jeu que j'ai adoré qui s'appelle Cyberpunk 2077, que toi, tu connais probablement, là. Peut-être des membres de l'auditoire aussi. Un jeu assez incroyable, développé en Pologne. Puis, l'affaire, c'est que je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils sont comme obstinés. Ben, pas obstinés, je ne veux pas dire ça, mais ils ont décidé de faire leur propre engine, Red Engine, ça s'appelle. Et c'est un studio assez gros, là. Puis, c'est un studio indépendant, techniquement, je pense, ce studio-là, CD Projekt
Red. Un gros studio indépendant.
Ouais, c'est pas un studio de 12 personnes. Non. Okay. Puis, tu sais, le jeu, à la sortie, le jeu est sorti sur les consoles des dernières générations et le jeu était un peu, était très buggy avec cet engine-là. Puis, beaucoup de monde blâmait un peu l'engine. Puis là, quand le jeu est sorti ensuite sur les nouvelles générations, le jeu allait super bien. Un jeu qui est assez incroyable et que je sais pas s'il aurait été possible. Peut-être qu'il aurait été possible sans développer le propre engine. Mais bref, tout ça pour dire que pour la suite de Cyberpunk, moi, je trouve ça tellement bizarre, mais ils ont décidé de scraper leur engine puis de le faire sur Unreal Engine. À la place de leur engine qu'ils ont développé, tu sais, qui ont passé beaucoup de ressources puis beaucoup de temps à développer. C'est un choix qui m'a un peu, j'avais un peu de la misère à comprendre, puis encore là, je comprends pas vraiment pourquoi. Tu sais, comme tu as dit, développer un engine, c'est un peu un projet d'ingénierie en soi, là. C'est quasiment comme faire un jeu, c'est long, ok, ça a des ressources. T'as-tu une idée pourquoi ils font ça, tu sais? Dans ce cas-là, c'est peut-être un exemple trop précis, là, mais...
J'ai pas vu leur raison exacte, ils ont sûrement quand même communiqué leur choix, mais si j'avais à juste essayer de deviner pourquoi ils ont changé, probablement que... T'sais, oui, ils ont réussi à le porter sur une nouvelle génération, mais ça a été un des énormes coûts de développement. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'histoires de crunch time, là, d'heures supplémentaires interminables pour arriver à sortir ce jeu-là. Unreal, c'est un engin qui est déjà établi depuis longtemps, qui est utilisé par beaucoup de studios partout dans le monde. Ils se sont peut-être rendus compte, et des discussions probablement même avec Unreal directement, que toutes les fonctionnalités qu'ils étaient en train de développer eux-mêmes pour leur engin pouvaient faire la même chose avec un autre engin. Donc, à un moment donné, t'as un coup de « est-ce que je continue à développer puis investir dans mon propre outil ou je paye une licence pour utiliser un outil qui fait déjà ce que j'ai besoin de faire et qui va être maintenu par une autre équipe et qui fonctionne? » Et probablement que ce choix-là, dans leur cas, se sont rendus compte que il y avait trop d'énergie, le coût ne valait pas la peine de continuer à investir dans leur propre engin de jeu plutôt qu'utiliser lui d'Unreal. Dans d'autres cas, dans d'autres scénarios, si leur engin fait vraiment de quoi qui est différent, assez différent et assez unique, puis ils en ont vraiment besoin, ils ne passeraient pas nécessairement à Unreal pour changer de jeu. Là. Je pense notamment à Nintendo que énormément de leurs jeux qui sortent pour la Switch. La Switch, c'est vraiment pas une plateforme très performante. Là. C'est porter un jeu sur la Switch, il faut réduire énormément sur le frame rate, sur la qualité visuelle. Il faut comme tout tourner. Plein de compromis pour s'assurer que le jeu fonctionne correctement sur la plateforme parce que ce n'est pas une plateforme performante. Mais après ça, on voit qu'ils sortent des Zelda comme Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, qui sont des super jeux magnifiques. Puis on se demande, mais comment ça roule aussi bien ces jeux-là sur la Switch? Ben, ils ont leur propre engin et leur engin est tellement optimisé pour fonctionner sur la Switch que eux, je pense pas qu'ils pourraient passer en Unreal ou en Unity. Ouais. Ça ferait pas de sens pour Nintendo. Là.
Ouais, ben oui, ok. Ouais, c'est tellement. Tu vois, j'avais jamais pensé à ça non plus que Nintendo font aussi ça. Probablement tout le temps. Là. On voit rarement des logos d'Unreal et des logos d'Unity sur les jeux.
Je sais qu'il y a certains. Je pense qu'il y a un Yoshi il n'y a pas si longtemps qui a été montré, qui était fait sur Unreal, donc tout dépendant. Mais c'était pas le même style de jeu qu'un Zelda. Donc dans ce cas-là, le choix faisait du sens de travailler avec cet engin-là. Mais quand ils ont vraiment besoin d'aller performance, optimisation, mais avoir son propre engin, dans le cas de Nintendo, ça faisait du sens.
Par rapport, là, on parle OK des engins, puis tu sais, j'imagine que quand même, assez dès le début dans le projet, vous prenez des décisions, comme tu as mentionné tantôt, par rapport au pilier, par rapport au engine, par rapport à l'étendue du jeu. Ben, en fait, c'est aussi une question, tu sais, comment vous calculez ça, l'étendue? Comment vous vous dites, OK, on commence, on n'a rien de fait, mais là, on veut que le monde, ça va être un jeu coopératif, ils vont passer tant, tu sais, on veut pas qu'il... Tu sais, je veux dire, je peux imaginer que ça arrive que là, tu développes un jeu, tu as tout fait ton planning, puis là, tu arrives à la fin, puis c'est comme, OK, là, ça va tellement être énorme, là, genre, ça a comme aucun sens qu'on aille 100 heures de jeu, mettons, pour un... Tu sais, ça arrive-tu des trucs comme ça? Comment vous faites pour calculer bien le scope au début sans avoir une idée concrète?
C'est un mix de plusieurs choses. Principalement, on y va avec l'expérience. On a déjà là, développé des jeux. On connaît quel genre de fonctionnalités sont coûteuses, prennent du temps, qu'est-ce qui est complexe, qu'est-ce qui l'est moins. Mais on se base toujours sur un scope initial qui est assez restreint. C'est notre petit truc. Là. On essaye de... d'éviter ce qu'on appelle dans le domaine du feature creeping, c'est que hey, j'ai une idée, hey, ça serait donc bien le fun de pouvoir faire telle action dans le jeu ou pouvoir sauter par-dessus telle affaire, des trucs de même. Puis c'est facile d'avoir ces idées-là, puis on peut en ajouter. Puis si on continue à dire oui à toutes les idées qui sortent de l'équipe, ben là, on va se ramasser avec un projet que ça fait pas de bon sens et qu'on n'arrivera pas à sortir dans les temps. Fait qu'on essaie de partir du scope le plus réduit possible et de planifier une production en fonction de ça. Et on travaille de manière super itérative, donc on fait des sprints de développement, on travaille de manière agile. Plus qu'on avance dans le projet, plus on se rend compte si on prend de la vitesse ou du retard, de l'avance ou du retard sur le développement. Dans la majorité des cas, on est plus proche du retard que de l'avance. C'est très rare qu'on est vraiment devant en avant d'une planification.
Ouais.
Mais ça, c'est notre nature d'être optimiste et de toujours sous-estimer le temps que ça prend à faire les choses, déboguer, faire reviewer nos affaires et s'assurer que tout fonctionne bien intégré ensemble. Donc oui, on essaye de se bâtir un scope initial qui est vraiment le plus simple possible. Fait que c'est quoi on va l'appeler le MVP, là, la version minimale de ce jeu-là, qui est le fun pareil, puis qui est plaisante, puis on se concentre là-dessus, puis on veut s'assurer que ce cœur de jeu-là est vraiment plaisant en premier. Donc c'est notre façon de le bâtir. Il y a aussi un terme qu'on appelle, c'est une tranche verticale. On pourrait bâtir un jeu de manière de tranche horizontale, ce qui veut dire, OK, on va faire toutes les mécaniques de jeu, mais aucun art. Puis après ça, on va ajouter les arts, puis après ça, on va ajouter la musique, puis là, on vient faire comme nos étages de gâteau. À la place de ça, quand on fait une tranche verticale, c'est un peu faire un genre de MVP. On dit, OK, on va prendre une petite tranche de notre gâteau, mais qui a toutes les saveurs dedans. Donc, un petit morceau, une petite démo dans lequel j'ai mon gameplay, j'ai mon visuel, mais tu sais, j'ai peut-être juste un ennemi que je me bats contre. J'ai peut-être pas les 100 ennemis qu'on a prévus, admettons, à mettre dans le jeu. J'en ai juste un, mais je le fais de A à Z, animé avec son, la musique, tout le kit, pour avoir une petite idée de, OK, ça ressemble à quoi ce jeu-là quand tout est intégré, puis combien ça nous a pris de temps à faire ça. Fait qu'une fois qu'on a établi cette donnée-là, on est capable après ça de l'extrapoler sur maintenant, OK, ben on avait dit qu'on voulait faire 100 ennemis, c'est peut-être un peu trop, peut-être 20, c'est un scope plus réaliste pour ce projet-là, maintenant qu'on en a fait un au complet ou qu'on sait tout ce que ça implique avoir un ennemi fonctionnel dans le jeu. Donc, c'est une technique, là.
Ça, c'est hot parce que c'est ça, fait qu'on peut comprendre. Fait qu'après ça, quand vous montrez ça à des éditeurs ou quand tu fais des preuves de concept à l'interne ou quand vous faites des campagnes de financement Kickstarter, j'imagine que ça ressemble un peu à des tranches verticales.
Oui, c'est des tranches verticales. Donc, on veut vraiment avoir notre pointe de gâteau, goûter à toutes, mais on mange pas le gâteau au complet. C'est vraiment ça.
Ouais, c'est ça, c'est une bouchée, tu sais, puis t'as un peu une idée de tout, comment tout fonctionne. Fait qu'une genre de preuve de concept carrément. Là.
Ouais.
Génial, ça c'est intéressant. Puis quand j'ai pensé à ça, c'est une question sur laquelle je voulais te demander là, les tranches verticales, mais je suis vraiment content que tu l'as apporté. Là. J'avais pas pris en note dans mes questions. Puis là, le jeu il sort. En fait, le jeu il sort. Ça arrive souvent que bon, il y a plein de. La communauté, tu sais, OK, on s'entend, vous faites tester le jeu, je sais pas à combien de gens, mais là après ça, quand le jeu il sort, tu sais, il doit y avoir un pool assez énorme de joueurs par rapport aux testeurs qui jouent le jeu mais qui découvrent des bugs. Tu sais, ça arrive-tu, OK, là. OK, fuck, finalement, il y a plein d'affaires qu'on n'a pas vues ou peut-être un petit peu de bug ici et là.
C'est garanti que ça arrive. Je ne peux pas imaginer un seul projet de jeu qui sorte et que t'aurais une équipe d'avoir de 1000 testeurs et ça ne serait pas assez. Si ton jeu est joué par 10 000, 50 000 personnes à sa sortie, ça fait beaucoup plus de monde qui trouve des choses et souvent les gens qui ont payé en plus pour le produit, ben, ils vont être vocaux aussi s'ils ont des problèmes. Donc, ça, on peut le voir apparaître dans les reviews du jeu. Par exemple, sur Steam, on peut voir les reviews, les gens en parlent. Mais on a aussi accès, on offre des canaux de support pour les joueurs. Donc, ils peuvent nous rejoindre directement sur notre Discord. Team 17, notre éditeur, ont aussi une adresse email puis un endroit sur leur site où que tu peux faire des tickets de support si tu as des problèmes. Donc, il y a une équipe aussi pour gérer ça et découvrir tous les bugs qui n'auront pas été découverts par les équipes de testing avant.
OK, c'est ça. Je me demandais, parce que j'ai vu qu'à cette heure, il y a beaucoup de, c'est ça, de jeux qui ont des Discord et des channels Discord, puis ça doit être une des raisons, ça, pour améliorer la vitesse puis la facilité aux joueurs à communiquer à l'équipe de développement, c'est quoi les bugs, tu sais.
Ça permet de parler des bugs, ça permet aussi d'aller chercher les idées aussi. Des fois, les joueurs, et c'est les plus grands fans que nous, ils jouent encore plus au jeu que nous, on l'a joué en le développant. Donc, de temps en temps, ils ont des idées qui sont superbes et qu'ils nous les partagent et que nous, quand on planifie les mises à jour de contenu, on prend ces idées-là en compte. Donc, ça nous permet d'améliorer le produit avec le feedback direct des joueurs, là.
C'est ça me fait encore une fois penser à mes expériences avec des appareils, carrément un appareil, tu sais, ou du développement de produits, tu sais, c'est là que tu essaies de tester le plus que tu peux, mais inévitablement, tu peux pas tout tester. Et puis avec le temps, ben, tu as des architectes de produits ou des vendeurs qui nous arrivent, tu sais, aux équipes de développement avec des points, tu sais, hey, là, telle affaire, ça va pas bien. Puis avec le temps, tu sais, ils compilent des listes de problèmes, puis là, avec le temps qu'il est là, faut changer ça. Ça fait full de monde, tu sais, qui ont ce problème-là. Fait que ça me fait full penser à ça. Puis, il y a tellement de parallèles. Puis, tu sais, on en parle depuis le début, mais tu sais, toi, comment tu trouves ça? Tu sais, est-ce que tu considères que les jeux vidéo sont carrément des projets d'ingénierie?
Oui.
T'sais, OK, oui. Bon, c'est ça que je me doutais, tu sais, mais je vais te poser la question. Parce que, tu sais, avec tout le côté artistique, on a peut-être tendance à l'oublier, mais en voyant, tu sais, comment il y a tellement du travail qui va derrière ça, tu sais, ça vient assez rapidement, là.
C'est un travail d'ingénierie et un travail artistique. C'est vraiment un beau jumelage de... Mais tu sais, je t'arrête de penser à ça, et même les produits d'ingénierie, à la limite, oui, sont là pour répondre à des besoins, des fonctions, mais ils ont aussi leur partie d'artistique, là. Les voitures de luxe, ils choisissent certaines courbures des voitures, tout ça, en fonction du look qu'ils veulent avoir. Donc, c'est un produit artistique également. Il y a des concepteurs qui vont penser, oui, à ce que la voiture, elle aille vite, elle fonctionne bien, elle aille comme toutes les fonctionnalités qu'on s'attend, mais qu'elle soit visuellement attrayante. Donc...
Tellement.
On peut le voir partout, là.
C'est vraiment un bon exemple. Ouais, les chars, ben oui, c'est tellement un bon exemple. Tu sais, mettons, moi, en mécanique, tu sais, les chars, c'est souvent les étudiants en mécanique qui veulent aller faire des chars, là, ou des vélos, là, après leur bac, là. Fait que c'est ça. C'est d'ailleurs une collègue de mon bac, puis une amie, là, qui m'a parlé de vous, là, puis de votre studio, là. Fait que je pense que vous connaissez d'un cours ou quelque chose, mais bon. Puis là, bon, bref, pour terminer, dernière question. Puis après ça, on a terminé, c'est vendredi, puis il fait beau. Le futur du studio, à quoi, selon toi, ça peut ressembler? Puis un peu, en même temps, on a parlé un petit peu de vos piliers de studio, mais est-ce que vous souhaitez peut-être prendre l'expansion ou rester votre format de plus de 12 personnes? Et tu sais, parce que ça doit vous donner une bonne flexibilité quand même d'avoir cette taille-là.
Oui, ben les objectifs pour FICA, c'est vraiment, on veut avoir les moyens de faire les jeux qu'on a envie. Tu sais, c'est comme... très, très de base, mais en même temps, c'est ça la difficulté dans le jeu vidéo. C'est toujours une game à la fois de production, de réussir à accomplir, à faire ces jeux-là, mais c'est aussi un gros travail de financement pour s'assurer qu'on est capable d'avoir cette équipe-là qui fonctionne de manière autonome. Donc, nous, on recherche beaucoup cette autonomie-là, ce style de vie-là. On a créé un milieu de travail qui nous fait triper, qui fait triper le monde qui vient chez FICA. Donc, est-ce que c'est 12 personnes? Est-ce que c'est 20? T'sais, ça peut varier un peu tout dépendant de c'est quoi qu'on a envie de bâtir. Mais dans les prochaines années, ce qu'on veut, c'est faire des plus gros succès qu'on a fait avec Shape of Fools pour être 100% autonome, indépendant et pouvoir faire les productions qu'on a envie pour les années à venir, là.
Pour que la roue continue à tourner.
Oui.
Pour faire une belle boucle sur ce qu'on mentionnait au début. Ben, excellent. Donc, ça conclut l'émission pour aujourd'hui sur ces belles paroles. Merci énormément pour ta présence, Antoine. Vraiment, là, c'était vraiment excellent. Puis, ça a été un de mes épisodes préférés enregistrés, honnêtement. Je suis vraiment content d'avoir pu comme rejoindre un peu les intérêts du podcast et mes intérêts aussi personnels, d'autres intérêts personnels à moi. Donc, merci énormément.
Gros merci à toi, Émile. C'était super.
Ça me fait plaisir. Donc, merci aussi, surtout aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.